de la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à toutes et à tous. Les titres à la une de ce journal. Ce 25 avril est célébrée la journée mondiale du paludisme, une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques qui est la première cause de mortalité en Afrique au sud du Sahara. Lancement de 369 concours administratifs à session 2024 et de ceux d'entrée en 2025 à l'ENA ce mercredi 24 avril à Abidjan. Les innovations annoncées par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation. Opération de dégrippissement à Abidjan, les populations du quartier Zo et de Cocody Angré Ponsoro disent être désemparées et souhaitent dédommagement. Christelle Yesso les a rencontrées via un reportage que vous aurez dans quelques instants. Et puis hors de nos frontières, en Mauritanie, le président Gazouani annonce sa candidature pour un deuxième mandat. La revue des titres de vos journaux sera assurée par Ghislain Koulibaly et en toute fin de partie, nous aurons pour invité de la rédaction Patrick Saraka, il est le secrétaire général du COGEP. Avec lui, il sera question de la position du parti de Blé Goudé sur l'actualisation de la cartographie électorale. Voici les différentes articulations. Débutons cette édition par un mot de santé. Chaque année, près de 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et tuent plus de 3000 personnes par jour. En Afrique subsaharienne, le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 80% en Afrique, 8% en Asie du Sud-Est et 5% dans l'Est de la Méditerranée et 1% dans l'Ouest du Pacifique. Actuellement, environ 40% de la population mondiale habitants des pays les plus pauvres du monde, pour la plupart, sont exposés au paludisme. Le paludisme est une maladie transmise par un moustique, est responsable de plus d'un million de décès d'enfants par an, la plupart d'entre eux ayant moins de 5 ans. 90% des décès surviennent en Afrique au sud du Sahara. Les concours administratifs de la session 2024 et de ceux d'entrée en 2025 à l'École nationale d'administration ENA, lancés ce mercredi 24 avril par la ministre de la fonction publique et de la modernisation à Abidjan. Anne-Désirée Ouloto, pour l'occasion, a annoncé que ces sessions se démarqueront par une nouvelle approche dans l'organisation des concours administratifs. On en sait un peu plus avec vous, Mata Touré.
De programmation aux besoins exprimés par les administrations seront mises en œuvre. Une décision inédite qui signifie que certains concours traditionnellement ouverts ne le seront pas cette année, notamment des postes très convoités comme adjoint administratif, commis au trésor, agent d'encadrement des douanes ou encore agent de constatation des impôts et bien d'autres. En contrepartie, des concours qui n'avaient pas été organisés lors des précédentes sessions seront ouverts. Les précisions de Anne-Désirée Ouloto.
Certains concours donc qui ont été ouverts lors des sessions précédentes et qui n'avaient enregistré aucune candidature, malgré l'existence de réels besoins, qu'il s'agisse spécifiquement des concours de démographe, ingénieur des travaux publics option bâtiment, ingénieur des travaux publics option route et transport, ingénieur statisticien économiste, médecin spécialiste en cancérologie, en cardiologie et en néphrologie.
369 concours sont ouverts au titre de cette année 2024. Les compositions seront lancées le 17 août prochain à Yamoussoukro. Trois nouvelles villes font leur entrée pour le concours de l'ENA, dont les 6 concours sont d'ailleurs maintenus. On rappelle que l'âge pour les différents cycles est revu à la hausse. Pour le cycle moyen à 35 ans, le cycle moyen supérieur à 40 ans et le cycle supérieur à 43 ans. La validité des diplômes est obligatoire avant les arrêtés d'admission. Et puis enfin, un numéro vert est ouvert pour dénoncer les fraudeurs et d'autres vendeurs d'illusions. Il s'agit du 1364.
Parlant de promotion des droits humains, à l'instar des autres pays du monde, Amnesty International Côte d'Ivoire a organisé ce mercredi 24 avril à Abidjan-Cocody le lancement de son rapport annuel 2023-2024. Cet exercice annuel s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des acquis de la promotion et de la défense des droits humains dans 160 pays, nous dit Jean-Claude Mabéa.
La situation des droits humains en Afrique en 2023 a été résumée par la présidente du conseil d'administration de Amnesty International, Tangara Sara.
En Afrique, il y a eu vraiment plusieurs violations. Il y a eu des violations sur les droits civiques et politiques, comme la liberté d'expression, liberté de manifestation. Les violations aussi sur les droits économiques et sociaux, comme le droit à l'alimentation et autres. En fait, ce qu'on a à retenir du rapport, c'est que les différents dirigeants des États africains puissent garantir les droits des peuples, puissent garantir les libertés et le bien-être.
Et puis, la présentation de la situation des droits humains en Côte d'Ivoire en 2023 a été faite par le directeur exécutif de Amnesty International. Coucou Hervé Delmas.
La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'elle est alarmante parce que nous avons beaucoup d'évolutions en termes de tests. On a la constitution qui garantit tous les droits et devoirs du citoyen, les libertés de manifestation et réunion autres, mais le grand défi c'est l'application de ces droits-là. Il faut qu'on permette aux citoyens lambda de rentrer dans l'esprit de ces tests-là. Parce que de l'extérieur, on voit que notre pays c'est un État moderne. Ça doit être moderne aussi dans les faits. À moins d'un an, pratiquement des élections, c'est vraiment important d'interpeller nos dirigeants dessus, que ces droits qui ont été autant proclamés, ces droits soient exercés.
Amnesty International alerte sur un tournant dans l'histoire du droit international sur fond de violations flagrantes des règles par les gouvernements et les entreprises, d'où son appel à l'action.
Une journée de dialogue interculturel et intergénérationnel a récemment eu lieu à Bouna. Objectif, contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et à la prévention de l'extrémisme violent dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique en collaboration avec le PNUD. Les échos de cette activité avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
La nécessité d'une riposte sociale et humaine à travers le dialogue entre les cultures, les jeunes et les anciens dans la lutte contre l'extrémisme violent dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec Evelyne Kofi, directrice des institutions socio-éducatives au ministère de la Jeunesse.
Vous savez très bien que ces vendeurs d'illusions et de terreurs surfent sur les problématiques sociales, les problématiques humaines. Il est important de répondre à ce besoin de respect mutuel et de coopération entre les différentes générations, entre les différentes communautés, entre les jeunes, les adultes et les personnes âgées dans la lutte contre l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord.
Les communautés de réfugiés et des demandeurs d'asile ont été associées à cette activité pour une participation plus inclusive, a dit Alassane Camara, analyste en prévention de conflits et de cohésion sociale au programme des Nations Unies pour le développement Bureau du Nord.
Ces demandeurs d'asile n'ont pas demandé à venir dans notre pays. Il faut les accueillir parce qu'ils fuient une réalité qui est la menace des groupes extrémistes violents. Donc il faut faciliter au sein des communautés leur intégration. Et cela se fait à travers un processus, cela se fait à travers ce genre d'activité qui va booster leur inclusion et faire en sorte qu'ils puissent vivre dans un climat apaisé et cohésif avec leurs frères du Bounkani.
Des fresques ont été réalisées par les jeunes de Bouna, apostées dans les lieux publics pour marquer leur engagement au civisme en vue de lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans cette zone cible. Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Comme annoncé dans les titres, l'opération de déguerpissement se poursuit à Abidjan. Les populations du quartier Zo et de Cocody en Crépon-Soro se disent désemparées après avoir été déguerpies par le district autonome d'Abidjan le jeudi 18 avril dernier. Elles se sont exprimées dans ce reportage de Christelle Yisso.
Des débris, voici ce qui reste de ce quartier précaire situé en dessous du pont Soro dans la commune de Cocody. Les habitants de ce quartier viennent en effet de subir un déguerpissement.
Moi-même, mécanicien, on nous a avertis, ils vont venir casser. Apprêtez-vous et puis quittez là. Nous, on n'est pas quittés, nous, on était là. Bon, là, c'est compliqué. On n'a pas place pour partir, on n'a pas un endroit aussi pour partir.
Que les gens vont revenir ici.
Ils pensent pas. Ça là, ils vont plus revenir ici. C'est fini. Ouais, on voit que nous, c'est en bas de haute tension. C'est en bas de haute tension là.
Là, en plein air, à même le sol, sur les restes de sa maison, Nyankini Salimatou, commerçante, passe la nuit.
C'est ici, elle va, c'est ici, elle dort.
On ne sait pas où y aller.
La nuit, là, on met les nattes ici, on dort. On dort ici, au milieu de bois. Là.
Même scénario du côté du quartier Zoo, où les habitants disent n'avoir pas été avertis.
Quadio Pierre. Ils ont dit qu'ils devraient casser à 20 à 25 mètres de la voie principale. C'est ce qui a été fait. Hier, à notre grande surprise, les policiers sont arrivés au quartier. Ils nous demandent même de sortir des maisons, que les machines sont venues terminer les travaux.
Pris par surprise, ils ne savent où aller. Sur place, des centaines de familles vivent à ciel ouvert.
Condo, ils vont à main. Moi-même, là, c'est la ronde. Peut-être qu'eux-mêmes, là, ils vont venir se lever ici. Ils s'attendent les refaits encore. Comment ils doivent faire pour dormir même. Regarde tous ceux-là, les parents. Ils ne savent même pas où ils s'en vont même. Imagine s'il pleut sur nous. Là, mais c'est gâté. Pour nous, là, mais c'est notre terminus qui est là.
Leur cri de cœur, un dédommagement du gouvernement, à l'instar des déguerpis de GESCO.
Transfert d'argent entre pays de l'UEMOA, près de 281 milliards de francs CFA transférés en 2022 de la Côte d'Ivoire vers plusieurs pays de la sous-région selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution précise que ce chiffre est en hausse de 28%, ce constitue 58% du volume total des transferts effectués par les diasporas vers les pays de la sous-région. Qu'apportent ces transferts financiers aux pays bénéficiaires et comment inciter ces diasporas à investir dans leur pays d'accueil? Là-dessus, les suggestions de Germain Cramaud, il est économiste, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES.
Ces migrants contribuent à la production de la richesse dans le pays dans lequel ils sont installés. Donc, ils contribuent à créer de la richesse dans ce pays. Et en retour, puisque la famille est restée au pays, donc il y a un transfert qui est fait pour que ses parents puissent plus ou moins subvenir à leurs besoins et aussi faire des investissements dans le pays au cas où ces derniers pourraient retourner au pays.
Quelle stratégie les autorités donc, de la Côte d'Ivoire pourraient mettre en place pour inciter ces ressortissants de ces pays à investir donc, en Côte d'Ivoire?
Pour la majorité de ces résidents, beaucoup sont dans des emplois, je peux dire, indépendants ou sont dans le secteur formel. Ces montants que ces personnes retournent au pays souvent servent à la nourriture, à régler les problèmes de santé, l'éducation de leurs parents qui sont restés au pays. Donc, souvent, ces fonds servent à satisfaire des besoins prioritaires. Donc, il serait pourtant difficile pour ces personnes de leur dire de ne pas faire ce retour vers leurs parents pour leur permettre d'avoir un mieux-être pour les pays qui reçoivent ces fonds. C'est une source de financement de leur économie. Comme vous l'avez dit, l'idée, ce serait de les encourager à investir davantage en Côte d'Ivoire. Il est important qu'on puisse développer des stratégies, comme vous l'avez dit, pour limiter les sorties d'argent, pour plus ou moins équilibrer notre balance des transferts. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous gagnons au niveau des transactions. Quand on prend les échanges de biens et services, la plupart du temps, la balance commerciale est excédentée en faveur de la Côte d'Ivoire.
Germain Cramaud, économiste et chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, joint par Jean-Claude Comé. Hors de nos frontières, en Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui dirige depuis 2019 le pays, a annoncé hier mercredi être candidat pour un deuxième mandat à la présidentielle du 29 juin. J'ai jugé opportun de m'adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre pour vous informer de ma décision de me présenter à vous afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat, a-t-il déclaré dans une lettre distribuée aux médias. Candidature était attendue et il sera le grand favori de ce scrutin où il affrontera notamment son rival arrivé deuxième de la présidentielle de 2019, le militant des droits humains Biram Ould Dad Ould Abeid, qui a annoncé sa candidature ce mercredi également. Et puis comme annoncé dans les titres, place maintenant la revue des titres de vos journaux de ce jour et Ghislain Koulibaly nous a rejoint. Bonjour Ghislain, que disent les journaux de ce jour?
Bonjour Mélène, bonjour à toutes et à tous. Ouvrons avec cette citation, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Une pensée de Nelson Mandela qui nous rejoint ce jour dans cette revue des titres. En effet, la ministre ivoirienne de l'éducation nationale et de l'alphabet Marguerite Koné vient de prendre les rênes de la conférence des ministres de l'éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie CONFEMEN. Soir Info affiche, en tant que nouvelle présidente, Marguerite Koné prend des engagements. La 60e session ministérielle qui a lieu ici à Abidjan depuis le 22 avril dernier a vu la participation du premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé qui a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation, souligne Le Matin. Mylène, vous convenez avec moi qu'une bonne éducation dans un pays garantit forcément une administration de qualité.
Effectivement.
Alors ce sont les objectifs en tout cas de la ministre Anne-Désirée Ouloto qui a lancé hier officiellement les concours d'entrée à la fonction publique, comme nous l'indique l'Essor ivoirien. Anne Ouloto annonce de grands changements, 369 concours ouverts en 2024. Autre sujet traité ce jour, c'est l'exploitation du gisement baleine. Fraternité Matin fait un gros plan là-dessus en titrant « On entre dans la phase 2, les structures sous-marines en construction et ce gisement promet avoir une production net zéro émission de gaz à effet de serre. » Et puis promotion des défenses des droits humains sur le rapport 2023 d'Amnesty International section Côte d'Ivoire. L'Inter retient ceci et écrit « Présidentiel 2025, Amnesty Côte d'Ivoire » tire la sonnette d'alarme, tandis que le patriote se veut plus optimiste en mentionnant « la situation des droits de l'homme n'est pas alarmante en Côte d'Ivoire ». Restons avec le patriote dans la promotion des droits et surtout des droits des femmes dans l'armée. Les armées honorent leur personnel féminin, c'est ce qu'on peut lire. Une célébration en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et du ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara. Et puis Mylène, vous l'avez annoncé dans vos titres, ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le journal Le Rassemblement se pose cette question. La Côte d'Ivoire peut-elle vraiment y parvenir? Plus de détails dans la revue de presse de 8h40.
Merci à vous Ghislaine Koulibaly. On vous retrouve dans l'édition de 8h dans le même exercice. Dernière articulation de notre journal avec l'invité de la rédaction de ce jour, le secrétaire général du parti politique COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Il dit ne pas comprendre pourquoi la CEI veut forcer pour faire une opération d'actualisation de la cartographie électorale tout en appelant au dégel des avoirs et à la réinscription sur la liste électorale de Charles Blé Goudé, le président du COGEP. Dr Patrice Saraka répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Patrice Saraka, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis Cassi.
Alors, l'opération d'actualisation de la cartographie électorale de la CEI est condamnée par votre parti, le COGEP. Pourquoi?
Il faut d'emblée préciser que pas l'opération en tant que telle que nous condamnons. C'est la méthode qui est utilisée, c'est la précipitation de la CEI à vouloir conduire un si important processus que nous condamnons. Sinon, la mise à jour de la cartographie électorale est une opération qui est intimement liée à l'établissement du répertoire des lieux et bureaux de vote. Et donc, on ne peut pas condamner une telle opération dans son principe. Ce sont les modalités de sa mise en œuvre que nous condamnons en fait. Des voix se sont levées au niveau de la classe politique que de la société civile ivoirienne pour que l'opération soit bien conduite et que nous puissions atteindre l'objectif à terme dans une approche inclusive.
Le président du COGEP, Charles Blé Goudé, a récemment dénoncé ce qu'il qualifie de gel de ses avoirs, tout en réitérant aussi son appel à sa réinscription sur la liste électorale. Qu'en pensez-vous?
C'est une situation assez particulière que vit le président du COGEP, qui, on le sait, revenu de la CPI, de la Haye, a entamé une tournée d'apaisement, de pardon, de reconnaissance pour que les Ivoiriens vivent en harmonie. En un mot, a contribué fortement à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Force est de noter que malgré ses efforts, alors que un certain nombre d'acteurs politiques pro-Gbagbo ont bénéficié de grâce ou d'amnistie, de dégel de leurs avoirs. Certains même ont été réintégrés à la fonction publique. Ce qui est une très bonne chose. Charles Blé Goudé s'interroge. Pourquoi le président décide-t-il de tourner définitivement la page de la crise post-électorale et arriver sur la page Charles Blé Goudé, ils sont vouloir plier cette page. On ne comprend pas.
Mais récemment, le porte-parole du gouvernement, à l'issue de son point par rapport au dernier Conseil des ministres, a répondu à cette interpellation de Blé Goudé, disant que Blé Goudé gagnerait à aller vers la justice pour résoudre ce problème.
Oh, c'est une fuite en avant. Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans. C'est pas un problème judiciaire, c'est un problème politique. La Côte d'Ivoire a estimé qu'il était bon d'envoyer Charles Blé Goudé face à la justice internationale. Ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à Charles Blé Goudé ici, après son acquittement là-bas. Parce que, à l'analyse, les faits pour lesquels Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans ici en Côte d'Ivoire sont exactement liés aux faits pour lesquels il a été jugé et blanchi à la CPI. Et c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a envoyé Charles Blé Goudé. Elle aurait pu décider de juger Charles Blé Goudé ici.
Pour vous, Charles Blé Goudé a été jugé deux fois pour les mêmes faits?
Oui, pour nous, il est clair que Charles Blé Goudé a été jugé pour les mêmes faits ici en Côte d'Ivoire.
Et donc, qu'est-ce que cela pose comme problème selon vous?
Parce que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Voilà, c'est un principe de justice.
Quelles sont les démarches que vous entendez mener pour que Blé Goudé ait ses avoirs dégelés et son nom réinscrit sur la liste électorale?
Nous retoquons que ça, ce sont des mesures politiques et administratives à prendre. Et cela est de la responsabilité des autorités ivoiriennes. Et donc, le président de la République peut permettre aux Ivoiriens de tourner définitivement la page de la crise post-électorale de 2010.
Pour vous, la réconciliation en Côte d'Ivoire, quel est son état?
Des efforts sont consentis, hein, le moins qu'on puisse dire. C'est même aussi le sens de notre interpellation. Nous constatons que des efforts sont consentis, justement. C'est parce qu'il y a des efforts qui ont été consentis par le pouvoir, par le président de la République, que nous ne comprenons pas l'attitude particulière vis-à-vis du cas Charles Blé Goudé. On n'a pas de démarche particulière à mener vis-à-vis de la justice. Nous avons l'intention de continuer à interpeller, à appeler, à demander au chef de l'État de faire des efforts supplémentaires pour tourner définitivement la page de la crise. On ne peut pas accepter qu'on enchaîne Charles Blé Goudé alors qu'il veut participer pleinement à la vie politique de son pays. La jeunesse, on le dit, est la richesse de l'Afrique et cette classe politique jeune a envie de démontrer qu'elle constitue une véritable richesse pour les Ivoiriens qui sont sous le poids de la précarité, des difficultés et nous avons des réponses à ces mots que vivent les Ivoiriens. Il ne faut pas nous enchaîner.
Docteur Patrice Saraka, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur.
C'est avec notre invité du jour que nous refermons les portes de ce journal, mais avant, le rappel des titres. Ce 25 avril est célébrée la journée mondiale du paludisme, une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques qui est la première cause de mortalité en Afrique au sud du Sahara. Lancement de 369 concours administratifs à session 2024 et de ceux d'entrée en 2025 à l'ENA ce mercredi 24 avril à Abidjan. Les innovations annoncées par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation. Opération de déguerpissement à Abidjan, les populations du quartier Zo et de Cocody en gris Ponsoreau disent être désemparées et ils souhaitent dédommagement. Christelle Yesso les a rencontrés. Et puis hors de nos frontières, en Mauritanie, le président Ghazouani a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat. Fin de cette édition, prochain rendez-vous de la rédaction, 8h.